Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « Les dons miraculeux devaient-ils cesser ?» Deuxième partie. Dans notre dernière étude, nous avons examiné 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 13, un passage qui nous donne un premier élément de réponse pour savoir si les dons miraculeux décrits dans le Nouveau Testament sont toujours disponibles de nos jours. Le texte dit clairement que les dons tels que le parler en langue ou la prophétie étaient destinés à prendre fin. Le passage précise en plus que ces choses devaient disparaître quand ce qui est parfait ou complet serait venu. En tenant compte de tout ce qui est dit dans le passage, nous avons conclu que ce qui est parfait est la révélation complète de la volonté de Dieu, ce que nous avons depuis la fin du premier siècle dans la Bible. Les dons miraculeux authentiques du Saint-Esprit, décrits dans le Nouveau Testament, ne seraient donc plus nécessaires ou même disponibles pour nous aujourd'hui. Ce point de vue va à l'encontre de l'opinion la plus répandue dans les églises aujourd'hui. Voyons donc s'il n'y a pas d'autres passages qui démentent ou qui confirment l'interprétation que nous venons de présenter. Considérons donc le moyen par lequel des croyants au premier siècle recevaient les dons miraculeux de l'Esprit, tels que le don de guérison, le don de parler en langue, le don d'interpréter, le don de prophétiser et tous les autres. En Actes chapitre 2, nous voyons que les apôtres eux-mêmes ont reçu ces dons directement du Seigneur le jour de la Pentecôte. Actes 2 verset 4 dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le jour de la Pentecôte et dans les jours qui suivaient, les miracles étaient attribués aux apôtres seuls. Après la mort de Judas, qui avait trahi Jésus et qui s'est suicidé par la suite, tous les apôtres étaient des Galiléens. D'autres disciples que Jésus, tels que Lazare, Marthe, Marie, Bartimée et d'autres, étaient de la Judée. Mais selon Actes 2, verset 7, ceux qui parlaient en langue le jour de la Pentecôte étaient tous des Galiléens. C'était, en effet, les apôtres seuls qui exerçaient le don ce jour-là. En parlant des jours qui ont suivi, Actes 2, verset 43 dit « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Au chapitre 3, nous avons la guérison d'un boiteux qui mendiait devant la porte du temple. Cette guérison fut opérée par Pierre et Jean, des apôtres. En Actes 5, verset 12, nous lisons « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Bien que le Saint-Esprit était promis et donné à tous ceux qui avaient obéi à l'Évangile, la Bible ne mentionne aucun autre chrétien dans ces premiers 5 chapitres des Actes qui avait reçu un pouvoir miraculeux, si ce n'est les apôtres seuls. Ce n'est qu'à partir du chapitre 6 des Actes que nous voyons Étienne, au verset 8, faire des miracles. Or, Étienne n'était pas apôtre. Encore au chapitre 8, versets 6 et 7, nous voyons Philippe, l'évangéliste, non pas Philippe l'apôtre, qui lui aussi faisait des miracles. Qu'est-ce qui mettait à part Étienne et Philippe par rapport aux autres convertis pour qu'ils soient capables de faire des miracles? Nous le voyons en Actes 6, versets 5 et 6. Ces deux hommes faisaient partie d'un groupe de 7 frères à qui les apôtres avaient imposé les mains. Ceci est très important. Si nous revenons à l'histoire de Philippe en Actes 8, nous voyons que beaucoup de gens dans la ville de Samarie furent convertis par la prédication de Philippe. Le verset 14 dit « Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. » L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont imposé les mains aux chrétiens samaritains. L'un d'eux, un ex-magicien, s'appelait Simon. Le verset 18 dit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Quand les apôtres imposaient les mains aux Samaritains, ils recevaient, non pas la présence invisible du Saint-Esprit dans leur cœur, ce dont était promis à tous ceux qui se faisaient baptiser, selon Actes 2, verset 38, mais plutôt des manifestations visibles, miraculeuses, du Saint-Esprit. Quelque chose s'était produit que Simon avait pu voir, et il voulait pouvoir communiquer aux autres la même chose. Ceux qui recevaient le pouvoir de faire des miracles ne recevaient pas le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux autres. Autrement, Philippe, qui faisait lui-même de grands miracles, aurait pu les communiquer aux autres sans que les apôtres ne viennent de Jérusalem. Autrement, Simon n'aurait pas compris que c'était uniquement par les mains des apôtres que les dons étaient donnés. Et il ne leur aurait pas offert de l'argent, non pas pour qu'on lui accorde le pouvoir de faire des miracles, mais pour qu'on lui accorde la possibilité de transmettre ses pouvoirs aux autres. Ce principe est confirmé dans le reste du Nouveau Testament. Nous voyons une seule exception à cette règle. C'est le cas de Corneille, en Actes chapitre 10. Corneille fut le premier non-juif à se convertir au christianisme. Avant sa conversion, on n'avait même pas prêché l'évangile aux païens. Les chrétiens juifs ne comprenaient pas encore que le salut en Christ était réellement destiné aux hommes de toutes les nations, qu'ils soient circoncis ou pas. Et ils n'évangélisaient que leurs frères juifs. Mais Dieu a fait comprendre à Pierre qu'il devait se rendre chez Corneille. Pendant que l'apôtre prêchait à Corneille, et à ses parents et à ses amis, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient. Actes 10, versets 45 et 46 dit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Au chapitre 11, nous voyons que ce qui s'était passé chez Corneille était exceptionnel, et nous voyons aussi la raison pour laquelle Dieu a fait une exception dans ce cas. Au verset 2 et 3, il est dit que lorsque Pierre est allé à Jérusalem, les chrétiens juifs lui ont adressé des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ». Pierre leur a donc expliqué tout ce qui s'était passé pour l'amener à se rendre chez Corneille. Au verset 15, Pierre dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Dans les années qui ont suivi le jour où l'Église fut établie, plusieurs personnes ont eu des dons miraculeux de l'Esprit, comme nous l'avons vu. Mais cela avait toujours été au moyen de l'imposition des mains des apôtres. Quand Pierre décrit ce qui s'est passé chez Corneille, il se réfère à ce qui s'était passé au commencement de l'Église, quand les apôtres ont reçu leur pouvoir directement, sans l'intermédiaire d'un homme quelconque. Dans les versets 17 et 18, nous voyons la raison pour laquelle Dieu a agi de cette manière. Pierre continua, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Dans ce cas, Dieu a accordé des dons visibles et miraculeux du Saint-Esprit sans l'imposition des mains d'un apôtre, parce qu'il voulait faire comprendre à l'Église qu'elle devait accepter la conversion des païens. Dieu a donné des dons de l'Esprit directement à deux occasions seulement. Une fois sur des Juifs, le jour de la Pentecôte, et une fois sur des non-Juifs, chez Corneille. Toutes les autres fois, ce fut par l'intermédiaire des apôtres que les dons de l'Esprit furent accordés. Or, les apôtres ne sont plus parmi nous pour nous communiquer ces dons aujourd'hui. Mais ne peut-on pas avoir d'autres apôtres de nos jours? Il y a certainement des hommes qui se font appeler apôtres, qui prétendent être apôtres. La Bible dit que nous ne devons pas accepter aveuglément de telles prétentions. En Apocalypse 2, verset 2, Jésus félicite l'église d'Éphèse de ne pas avoir été séduite. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Comment peut-on éprouver ceux qui se disent apôtres aujourd'hui? Sachons d'abord que le rôle primordial d'un apôtre était d'être témoin oculaire de la résurrection de Christ. Quand il était question de remplacer Judas pour que le nombre des apôtres soit au complet, c'est-à-dire 12, des critères étaient reconnus. En Actes 1, versets 21 et 22, les disciples ont dit « Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Plus tard, quand Paul défendait son apostolat, il dit qu'il était qualifié comme témoin. « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» 1 Corinthiens 9, verset 1. Dans la même épître, au chapitre 15, versets 7 et 8, il affirma « Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. » Paul a aussi vu le Seigneur ressuscité afin d'être témoin comme les autres, mais comme il le dit, il a été le dernier. Les miracles dont nous lisons dans la Bible avaient un but précis, celui de confirmer le message que les apôtres étaient en train de révéler, celui de prouver que ces hommes parlaient réellement pour Dieu. Marc 16, verset 20, dit au sujet des apôtres, « Ils s'en allèrent prêcher partout. » Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Hébreux 2, versets 3 et 4 enseignent la même idée. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Puisque des miracles divins ont été opérés pour confirmer le message que Dieu révélait, un récit fidèle de ces miracles suffit pour attester que le message est vrai. Dieu a fait beaucoup de miracles au temps de Moïse pour confirmer que Moïse était sa porte-parole et pour attester que les commandements que Moïse promulguait venaient de Dieu lui-même. Les générations de Juifs qui venaient plus tard n'avaient pas besoin de voir les eaux du Nil changer en sang ou la mer rouge partagée en deux ou la manne tomber du ciel pour savoir que les cinq livres de Moïse étaient inspirés de Dieu. Une parole confirmée comme étant de Dieu demeure confirmée pour toujours. Voilà une raison pour laquelle la parole de Dieu, écrite ou prêchée, est capable de produire la foi. Jean 20, verset 31 dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. » Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le message de la Bible est complet. Jésus a promis que le Saint-Esprit conduirait les apôtres dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. L'apôtre Paul a dit avoir déclaré tout le conseil de Dieu. Acte 20, verset 7. Jude nous dit que la foi chrétienne a été transmise aux saints une fois pour toutes, de telle sorte que Dieu n'aurait pas besoin de la révéler de nouveau aux générations futures. Sa parole ne passera pas, mais demeure éternellement. Matthieu 24, verset 35. Il n'y a donc pas lieu de modifier le message par de nouvelles révélations de nos jours. Comme il n'y a pas besoin de nouvelles révélations qui ne sont pas contenues dans la Bible, il n'y aura pas besoin de confirmation miraculeuse de ces révélations. Quel est le rapport entre ces faits et la disparition des dons miraculeux qui a été prédite en 1 Corinthiens 13, c'est tout simplement que les vrais apôtres ne sont plus sur la terre et ne peuvent donc plus imposer les mains sur nous aujourd'hui pour que nous recevions ces dons spirituels. Il ne reste donc personne pour transmettre ces dons aux autres. Mais il n'y a plus besoin de quelqu'un pour transmettre les dons. Quand la révélation parfaite fut donnée, c'est-à-dire quand la Bible a été achevée, ce qui était partiel, les dons miraculeux, devaient disparaître. Les dons et le moyen de recevoir les dons ont été enlevés en même temps, quand ils avaient fini de servir le but pour lequel Dieu les avait pourvus.
Joyeux, joyeux, je t'adore, de mon cœur s'élève un chant. Sitôt qu'apparaît l'aurore, le soir au soleil couchant, plein de joie et d'allégresse, je te bénis chaque jour. Pour ta bonté, ta largesse, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Cette joie envahissante remplit ton peuple en tout lieu. Son âme reconnaissante ne peut que